VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge avec vous au sommaire de cette édition du 20 février 2017. Manifestation à Conakry pour la reprise des cours en Guinée. L'opposant katangais Gabriel Kyungu a répondu présent à Lubumbashi à la deuxième audition pour offense au chef de l'État. Embourbé dans la guerre depuis plus de 3 ans, le Soudan du Sud déclare l'état de famine dans la région d'Unité. Plus de 850 migrants sont entrés de force dans l'enclave espagnole de Ceuta en l'espace de 4 jours. Assaut final des forces irakiennes sur la partie occidentale de Mossoul. L'ambassadeur russe aux Nations Unies, Vital Tchurkin, est mort soudainement à New York. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. L'archevêque de Kinshasa a déploré l'incapacité de la classe politique congolaise à sortir la RDC de la crise politique et organiser rapidement les élections. Le cardinal Laurent Monsengwo invite les acteurs politiques à faire preuve de sagesse, de retenue et d'esprit démocratique pour résoudre la question relative à la désignation du Premier ministre. La France a demandé au gouvernement congolais de faire la lumière sur une vidéo mettant en cause l'armée dans un massacre de civils. Auparavant, les États-Unis s'étaient dit préoccupés sur la même question. Washington a déclaré que l'incident pourrait constituer des violations flagrantes des droits humains. La vidéo diffusée sur Internet montre des membres présumés des forces armées congolaises se livrant à des exécutions de civils. L'opposant congolais Gabriel Kyungu a répondu présent ce lundi à Lubumbashi à la deuxième audition pour offense au chef de l'État, Narval Mabila.
Kyungu Akumwanza est auditionné par l'avocat général dans le cadre de la poursuite de l'enquête judiciaire ouverte à sa charge pour avoir outragé le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. À l'extérieur du palais de justice, jeunes et vieux chantaient en entendant la sortie de Kyungu Akumwanza, alors que des centaines de policiers étaient déployés pour assurer la sécurité. Après plus d'une heure et demie, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza sort du palais de justice à la grande satisfaction de la foule qui l'attendait et par la suite, il s'est exprimé à notre micro sous le contrôle des sonneux
audition. Après la deuxième audition, j'ai l'impression qu'on a répété les mêmes choses. J'ai clamé mon innocence. J'ai fait remarquer que le pouvoir cherche visiblement ma mort parce que je devrais normalement me trouver auprès de mes médecins à Bruxelles. Malgré que j'ai le visa de Belgique et il y a le certificat médical qui a été déposé au parquet général, je suis bloqué. Et en plus, je l'ai fait remarquer que Étienne Tshisekedi, c'est mon compagnon de lutte. Je devrais normalement aller participer aux obsèques, mais rien. Je devais normalement aussi, en tant qu'acteur politique, prendre part aux discussions de la CENCO. Rien. Je suis bloqué ici d'une manière arbitraire.
Son audition poursuit son chemin. Lubumbashi Narval Mabila, VOA Afrique.
Au Mali, l'explosion hier d'une mine qui a touché un bus transportant des dizaines de civils a fait au moins un mort et 14 blessés. L'explosion a eu lieu dans la région de Gossi, au sud-ouest de Gao. L'armée et la MINUSMA ont multiplié les patrouilles dans le secteur. 39 morts, c'est le dernier bilan de l'attaque menée hier par un kamikaze à Mogadiscio. Selon des témoins, l'attentat a visé un carrefour très animé du quartier de Madina, dans le sud de la capitale somalienne, où se trouvaient de nombreux commerçants, des civils faisant leurs courses et des militaires. L'attaque est intervenue le jour même où les Chebabs menaçaient de lancer une guerre sans merci contre le nouveau président somalien, Mohamed Abdoulaye Mohamed. Le Soudan du Sud déclare pour la première fois l'état de famine dans la région d'Unité. Les agences humanitaires mettent en cause la guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Morgane Guériec.
Lorsqu'on déclare officiellement l'état de famine, cela veut dire que les gens ont déjà commencé à mourir de faim, s'alarment les agences de l'ONU. L'UNICEF, la FAO et le PAM affirment que 100 000 personnes sont concernées. Et cette situation est la pire depuis le début des combats, il y a plus de 3 ans, estiment ces organisations. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés, malgré le déploiement de quelques 12 000 casques bleus. Et cette guerre dans laquelle des atrocités ont été attribuées aux diverses parties au conflit oppose principalement les troupes du président Salva Kiir de l'ethnie Dinka aux hommes de l'ancien vice-président Riek Machar, issus de l'ethnie nouère. Les Nations Unies ont mis en garde contre un risque de génocide. La région pétrolière d'Unité, région d'où est originaire Riek Machar, est l'une des plus touchées par le conflit.
La visite de la chancelière allemande Angela Merkel, prévue aujourd'hui en Algérie, a été reportée à cause de l'indisponibilité temporaire du président Abdelaziz Bouteflika, qui souffre d'une bronchite aiguë. L'immigration et la sécurité devaient être au centre de la rencontre. Monsieur Bouteflika a été frappé en 2013 par un accident vasculaire cérébral qui a affecté sa mobilité, son élocution. Depuis, il se déplace en fauteuil roulant et travaille dans sa résidence de Zeralda. Un convoi du chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, a essuyé des tirs à Tripoli. L'incident n'a pas fait de victimes. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir. Le GNA, soutenu par la communauté internationale, et une autorité rivale qui contrôle la majeure partie de l'Est libyen et s'appuie sur le Parlement élu de Tobrouk.
Lundi très tôt le matin, 359 migrants subsahariens ont réussi à entrer à Ceuta.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 850 migrants sont parvenus en 4 jours à pénétrer depuis le Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta. Un nouveau déferlement qui intervient sur fond de tension entre Bruxelles et Rabat. John Linden nous en dit plus.
Lundi très tôt le matin, 359 migrants subsahariens ont réussi à entrer à Ceuta, a indiqué la préfecture de l'enclave. Ils sont entrés après avoir cassé les portes d'accès avec des cisailles et des marteaux et n'ont pas eu à prendre d'assaut le grillage des 6 mètres de haut, a précisé un porte-parole de la préfecture. Vendredi, 498 migrants avaient déjà réussi le même exploit. L'enclave de Ceuta constitue avec celle de Melilla la seule frontière terrestre entre le continent africain et l'Union européenne. La surveillance des 8 km de frontière est exercée par l'Espagne et le Maroc. Rabat, en froid avec Bruxelles, avait menacé à demi-mot de relâcher le contrôle sur les migrants. Un différend oppose le Maroc à l'Union européenne sur l'interprétation d'un accord de libre-échange sur les produits agricoles et halieutiques.
L'ambassadeur russe aux Nations Unies, Vitali Tchurkine, est mort soudainement à New York ce lundi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, sans indiquer la cause du décès. Monsieur Tchurkine est décédé la veille de ses 65 ans. Il était à ce poste depuis 2006. Les diplomates qui tenaient une réunion au siège de l'ONU ont observé une minute de silence en sa mémoire. Le vice-président des États-Unis a affirmé ce lundi que son pays est déterminé à poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Union européenne à l'occasion de sa première visite officielle à Bruxelles. Les propos de Mike Pence surviennent alors que le président américain Donald Trump continue de critiquer l'Union et de saluer la sortie de la Grande-Bretagne. Mike Pence a par ailleurs réitéré l'engagement de Washington envers l'OTAN, mais exige des preuves rapides d'ici la fin 2017 que les pays de l'Alliance sont prêts à dépenser davantage dans la défense commune. Visite inattendue du nouveau secrétaire américain à la défense en Irak. James Mattis est arrivé à Bagdad au moment où les forces irakiennes convergeaient vers l'aéroport de Mossoul. Premier objectif pour reprendre au groupe État islamique la partie ouest de la ville. Jacques Aristide nous en dit plus.
Cette nouvelle offensive de Mossoul, dernier grand fief urbain des djihadistes en Irak, est menée avec l'appui de la coalition internationale. Sous commandement américain, les forces pro-gouvernementales ont repris leur avancée vers les lignes de défense du groupe État islamique. L'armée a repris hier une quinzaine de villages dans une zone désertique au sud de la grande ville, sur le chemin menant à l'aéroport. Venu pour la première fois à Bagdad en tant que numéro 1 du Pentagone, James Mattis a souhaité être informé de la situation sur le front. Dès son arrivée, il a tenu à apaiser les craintes irakiennes après des déclarations et des décisions controversées du président Donald Trump. Sur un éventuel nouveau décret sur l'immigration, James Mattis, lui-même ancien commandant des forces américaines en Irak, a dit ignorer la teneur de la nouvelle mouture, mais que l'administration américaine prendrait des mesures pour permettre à ceux qui ont, par exemple, combattu avec avec les Américains de se rendre aux États-Unis. Il a également ajouté que son pays n'est pas en Irak pour accaparer le pétrole, suite aux propos du nouveau locataire de la Maison-Blanche qui avait estimé que les États-Unis auraient dû garder le pétrole après le renversement de Saddam Hussein en 2003.
Ouverture en Turquie du procès de 47 personnes soupçonnées d'avoir tenté d'assassiner le président Recep Tayyip Erdogan lors du coup d'État manqué du 15 juillet. Parmi les mises en cause, 37 sont des militaires. 3 des accusés activement recherchés sont jugés par contumace. Parmi eux, le prédicateur exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen, accusé d'avoir fomenté le coup d'État. En Grande-Bretagne, la Chambre haute du Parlement examine aujourd'hui le projet de loi sur le déclenchement du Brexit. Depuis que la Cour suprême a contraint la première ministre Theresa May à consulter le Parlement, celle-ci est engagée dans une course contre la montre pour tenir sa promesse de déclencher la procédure de divorce avec l'Union européenne d'ici fin mars. Ce lundi, Madame May a de nouveau exhorté les lords à ne pas bloquer le texte. Et un Canadien sur 4 serait favorable à une restriction de l'immigration au Canada, similaire à celle promue par Donald Trump aux États-Unis, selon un sondage publié ce lundi. Entre novembre 2015 et février 2016, l'opinion publique avait évolué en faveur des politiques d'accueil des réfugiés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Diko.
Le Bureau nigérian pour la gestion de la dette vient de révéler que la dette globale du Nigeria s'élève à plus de 57 milliards de dollars en 2016. Défendant son budget pour l'année 2017 devant une commission du Sénat, le directeur du DMO a déclaré que les dettes externes du pays s'élevaient à plus de 11 milliards de dollars l'année dernière, contre 46 milliards de dollars pour les dettes intérieures. Ces dettes incluent des arriérés dus par le gouvernement, les 36 États de la Fédération et Abuja, la capitale fédérale. Le Cameroun s'engage à restaurer 12 millions d'hectares de forêts déboisées à l'horizon 2030 dans le cadre du défi de Bonn, une initiative lancée en 2011 par l'Allemagne et l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'engagement du Cameroun lui permet de se rapprocher de son objectif de réduire les émissions de carbone de 32% d'ici 2035. Les 5 pays membres de l'Union du Maghreb arabe, UMA, ont créé la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur en libérant le quart de son capital moyennant une enveloppe de 150 millions de dollars. La Tunisie a été choisie pour abriter le siège de cette banque qui aura pour mission de financer des projets communs aux 5 États, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie et Libye.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
Mondial à 48, le président de la FIFA en Afrique du Sud.
Gianni Infantino rencontre demain et mercredi à Johannesburg les 54 présidents de fédération africaine de football. C'est pour convenir l'élargissement du mondial à 48 équipes à partir de 2026, Nathalie. L'Afrique obtiendrait 9 places dans ce nouveau format. Contre 5 auparavant, le pays organisateur sera connu en mai 2020.
Et Lionel Messi serait en Égypte demain.
Le footballeur argentin des Catalans sera au Caire dans une campagne visant à promouvoir le tourisme de santé en Égypte et la lutte contre l'hépatite C. Cette maladie virale est très courante en Égypte.
Le tour préliminaire de la Ligue des champions en Afrique.
L'Espérance de Tunis se déplace en Guinée pour affronter Oroya. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns et tenant du titre rencontrent les Ougandais de Kampala Capital City Authority FC et le TP Mazembe affronte CAFC United du Zimbabwe. Les vainqueurs participeront à la phase de poule tandis que les perdants seront versés en Coupe de la Confédération. Les matchs aller se joueront les 11, 12 et 13 mars. Les matchs retour les 18, 19 et 20 mars 2017.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En Guinée, des élèves et leurs parents étaient dans les rues de Conakry ce lundi pour demander la réouverture des classes. Les forces de l'ordre ont eu du mal à canaliser les manifestants qui ont perturbé la circulation. Selon notre correspondant à Conakry, des dégâts ont été signalés ainsi que des blessés par balles. Zakaria Camara.
Comme ça, en plus, je suis élève, donc je suis quitté là-bas pour venir à Sidi, mais il n'y a pas de route.
Idrissa est l'un des Guinéens surpris tôt ce matin par des barricades érigées par des jeunes dans la capitale. Des manifestants qui réclament la réouverture des classes. Dans les rues, des élèves, mais aussi leurs parents.
On ne peut pas être indifférent sans manifester. Parce que depuis les négociations entre l'État et les centrales syndicales, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu d'issue favorable. Sur ce, on ne peut pas rester inerte face à cet état de fait. C'est pour cela qu'on a appelé toute la population guinéenne à descendre aujourd'hui dans la rue pour manifester.
On est descendu dans la rue aujourd'hui pour manifester notre colère. Parce que depuis fort longtemps, nos enfants se trouvent à la maison. Enfin, Condé n'a pas trouvé la solution pour nos enfants.
Dans certains quartiers, on a assisté à de véritables scènes d'intifada. Des pierres contre des gaz lacrymogènes. Les forces de l'ordre ont dispersé des jeunes qui ont brûlé des pneus sur les chaussées. Dimanche soir, l'annonce d'un accord avait fait le tour du pays, mais l'arrestation d'un artiste activiste libéré lundi et l'attente d'une déclaration de suspension de grève n'auraient pas rassuré les Guinéens. Le bilan de la journée est lourd. Un jeune élève a été tué par balle dans la banlieue de Conakry. Des édifices ont été vandalisés dans une ville paralysée. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Au Soudan du Sud, deux régions de l'État d'unité sont touchées par la famine. Plus de 100 000 personnes sont affectées et la situation pourrait s'aggraver. Une annonce faite ce lundi par trois agences onusiennes et le gouvernement de Salva Kiir, comme nous le dit Lionel Gaïma.
Selon le gouvernement sud-soudanais, l'UNICEF, la FAO et le PAM, Programme alimentaire mondial, la famine peut maintenant être ajoutée à la liste des problèmes du Soudan du Sud. Les conflits, l'effondrement de l'économie, les prix élevés des aliments et la faible production agricole sont à l'origine de l'insécurité alimentaire à travers le pays et maintenant de la famine qui sévit dans deux comtés du sud de l'État d'unité. La porte-parole du PAM en Afrique de l'Est, Chalice McDonough, explique la décision du comité technique mixte.
Cela signifie que les conditions ont atteint pratiquement le plus bas niveau de l'échelle que nous utilisons pour mesurer la sécurité alimentaire. Vous avez des taux de malnutrition astronomiques, vous avez des gens avec un accès très limité à la nourriture. Le taux de mortalité est au-dessus du niveau normal, donc ils ont souligné que s'il y a une mauvaise situation de sécurité alimentaire dans tout le pays, dans ces deux comtés spécifiques, les choses sont à peu près à leur pire niveau. C'est parce que le conflit a été intense là-bas, ou à cause de la présence de beaucoup de groupes armés. Il a été très difficile de négocier un accès sécurisé, tant pour les travailleurs humanitaires que pour les autres personnes voulant aider les victimes. Accès qui garantit que les gens ne vont pas être attaqués si vous parvenez à leur apporter de la nourriture et d'autres types d'aide.
1 million de personnes sont classées comme étant au bord de la famine au Soudan du Sud. Selon les chiffres publiés par le gouvernement et les Nations Unies, environ 5 millions de Sud-Soudanais sont gravement touchés par l'insécurité alimentaire, un chiffre qui devrait atteindre 5,5 millions en juillet, soit environ la moitié de la population. Le président du Bureau national des statistiques du Soudan du Sud a publié un communiqué reconnaissant les préoccupations suscitées par cette projection et exhortant tous les acteurs à intensifier leurs efforts dans les mois à venir afin d'éviter une nouvelle détérioration de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition dans le pays. Le porte-parole du Programme alimentaire mondial ajoute que le secteur agricole est sous-développé, mais la situation actuelle empêche les responsables et les populations de l'améliorer.
Si nous avions la paix et si nous pouvions travailler sur le développement agricole, oui, à long terme, il y a un énorme potentiel pour l'agriculture sud-soudanaise. Mais on ne peut pas cultiver quand on se bat. On ne peut pas cultiver quand il n'est pas prudent de se rendre au champ à cause des conflits armés.
Depuis le début de la guerre en décembre 2013, des dizaines de milliers de personnes sont mortes au Soudan du Sud, selon le HCR. L'Ouganda voisin héberge environ 700 000 réfugiés sud-soudanais et l'exode continue.
Merci beaucoup, Lionel Gaïma.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Nouvelle flambée de violence xénophobe en Afrique du Sud. Depuis une semaine, les migrants venus d'autres pays africains sont pris pour cible par des foules déchaînées à Johannesburg et Pretoria. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a contacté le professeur André Thomashausen à l'Institut du droit international et comparatif de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Ça s'explique par les chiffres parce qu'il y a vraiment un pourcentage très élevé d'étrangers et ils se trouvent dans une compétition très très dure pour les peu d'opportunités d'emploi et pour l'accès à des services d'appui, à des services de santé, éducation pour les petits, et enfin tout ce qu'on pourrait essayer de trouver dans une société. Même les services de prostitution se trouvent en concurrence entre les étrangers, les réfugiés et les nationaux.
Alors c'est un problème pour les autorités sud-africaines dont le pays joue un rôle de premier plan sur le continent.
C'est un problème extrêmement grave. L'Afrique du Sud a eu une politique d'accueil pour les migrants et les réfugiés très généreuse. Les réfugiés qui demandent un asile politique reçoivent immédiatement un permis de travail et parfois leur procédure d'être reconnu comme réfugié peut se traîner pour des années et dans ce temps-là, ils peuvent travailler, ils font leurs affaires, ils font des petits magasins et il y a encore des abus, surtout des gangs qui s'organisent dans le crime de la drogue, dans le crime de la prostitution, dans le crime de l'abus des mineurs. Et c'était justement ça, au sud de Johannesburg, qui a éclaté la violence ce fin de semaine. Des locaux se sont révoltés contre ces gangs qui occupent plusieurs maisons, qui transforment ces maisons en maisons de prostitution. Et ils abusent des mineurs. Ils prennent des mineurs, qui les gardent et qui les obligent pour les travaux de sexualité, avec aussi le trafic des drogues.
Comment les autorités répondent-elles à cette situation?
À ce moment-ci, il y a beaucoup de critiques parce que la police a pris une attitude de passivité ce fin de semaine. Leur explication était que les foules étaient trop grandes et il y aurait eu beaucoup de pertes de vie s'ils auraient intervenu avec la force parce qu'il y avait disponibilité de la police de nombre très réduit. Ainsi, ils ont simplement observé. Et ils ont essayé de persuader les gens de se calmer et de ne plus agir avec la violence contre les étrangers. Très souvent, il y a la xénophobie qui se mélange dans cette situation. Tout d'un coup, n'importe quelle personne qui parle l'anglais avec un accent nigérien est en danger d'être blessée.
C'était le professeur André Thomashausen de l'Institut du droit international et comparatif de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. Les forces irakiennes soutenues par les États-Unis ont lancé une offensive militaire aérienne et terrestre pour chasser les djihadistes du groupe État islamique de la partie occidentale de Mossoul. Le premier objectif est de reprendre l'aéroport de la ville. Pour plus de détails, nous retrouvons Jacques Aristide.
Les tirs de mortier résonnent dès l'aube sur Mossoul. Des centaines de soldats ont lancé l'assaut final sur la partie ouest de la deuxième ville d'Irak. À quelques kilomètres des portes sud, les divisions blindées, les avions et les hélicoptères avancent en ordre de bataille. Un bataillon qui a pour objectif de reprendre les derniers villages au sud de Mossoul. C'est le premier ministre irakien Haider al-Abadi qui a annoncé la reprise de la bataille de Mossoul dans un discours télévisé, la qualifiant de nouvelle ère.
Nous appelons nos braves soldats à commencer l'offensive pour libérer le reste de la ville et libérer ses habitants de l'oppression et du terrorisme de Daesh.
Il s'agit d'une nouvelle phase dans une offensive qui a débuté il y a 4 mois pour débarrasser Mossoul des djihadistes. Le mois dernier, l'Irak avait déclaré l'est de la ville entièrement libérée. Toutefois, le groupe État islamique a continué à perpétrer des attaques, dont un attentat suicide dans les heures qui ont suivi le début de la bataille. Les États-Unis apportent un double soutien aérien et logistique. Le secrétaire à la défense, James Mattis.
The U.S. forces continue in the same role that they were in East Mosul.
Les forces américaines continuent dans le même rôle qu'elles avaient à Mossoul Est, et les forces de la coalition appuient aussi cette opération. Nous poursuivrons, comme vous le savez, cet effort accéléré pour détruire le groupe État islamique.
La bataille à l'ouest de Mossoul peut s'avérer la plus brutale. Selon les Nations Unies, plus de 700 000 civils dans la ville sont en danger extrême. Les agences humanitaires de l'ONU s'attellent à mettre sur pied des camps d'urgence et à distribuer des vivres, car elles s'attendent à ce que les nouveaux combats déplacent des centaines de milliers de personnes.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart, 'cause love comes slow and it goes so far.
Nous arrivons au terme de cette édition. À la mise en onde, c'était Josèle Morissin. À la console, c'était Audrius Regis. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.